aimé dans cette première partie de notre heure. Nous allons méditer ensemble sur les textes qui nous ont donné le thème de cette 17e retraite. Et en ce matin du 9 février 1986, nous allons nous mettre à l'écoute de Jésus lorsqu'il était sur la terre. Vous vous souvenez, dans le chapitre 10 de Luc, qu'il a choisi 70 personnes pour aller préparer le chemin devant lui, alors qu'il avait décidé de monter à Jérusalem, cette ville qui tuait les prophètes, qui lapidait ceux que Dieu lui avait envoyés et qui allait combler la mesure de leur père en mettant à mort le Fils de Dieu lui-même. Et ces 70 ont accompli leur mission et sont revenus auprès de Jésus pleins de joie. Je lis à partir du verset 17e du chapitre 10 de Luc. Les 70 revint avec joie et dire, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Est-ce que cette parole, vous pouvez la prendre pour vous avant de quitter ce lieu? Le Seigneur, s'il est en vous, par son esprit, peut vous donner ce pouvoir sur tous les ennemis, sur toutes les embûches que vous pourriez trouver sur votre chemin, parce qu'il y a différents serpents, vous le savez bien, et il y a différents genres de scorpions dans ce monde, dans nos villes. Et peut-être que vous avez peur de retourner dans vos demeures même, de retourner à vos anciennes habitudes. Vous les connaissez, ces serpents, vous les connaissez, ces scorpions. Ils sont toujours là, c'est vrai. Mais ce que vous allez expérimenter, c'est que si vous avez reçu Jésus, il y a en vous une puissance qui vous fera triompher de tous ses ennemis. Et c'est Jésus qui vous le dit. Et quand vous recevez une parole de Jésus, c'est une parole de Dieu. Celui qui vous écoute, disait Jésus à ses disciples, il m'écoute. Quand un disciple parle vraiment au nom du Seigneur, quand ça ne vient pas de son propre cœur, mais qu'il est réellement le canal de la parole de Dieu, eh bien, ce n'est pas un homme que vous écoutez, mais c'est le Seigneur lui-même. Celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui m'écoute, écoute qui? Celui qui m'a envoyé. Car Jésus disait lui-même qu'il ne parlait pas de son propre fond, mais que tout ce qu'il disait, toutes ses paroles, C'était des paroles qu'il avait entendues dire par son père. Comme aussi tout ce qu'il faisait, c'était des choses qu'il avait dû faire par son père. Nous nous parlons d'imagination, il faut avoir de l'imagination pour travailler pour le Seigneur. Il n'est pas question de cela. Il n'est pas question de votre imagination. Il est question de votre obéissance. Le Seigneur a parlé, nous voulons savoir ce qu'il a dit, c'est pourquoi nous lisons sa parole. Et quand nous connaissons sa parole, nous cherchons à obéir, quel qu'en soit le prix. Et Jésus a dit, rien ne pourra vous nuire. Vous ne voulez pas garder cette parole dans votre cœur ce matin? Rien ne pourra vous nuire. C'est un court verset, mais rien ne pourra vous nuire. Paul l'a cru. Il a eu bien des épreuves. Mais il a témoigné que rien n'a pu lui nuire. Rien. Il a passé en revue tout ce qui peut arriver dans une vie humaine. Et il dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par qui? Par celui qui nous a aimés. Pensez donc. S'il nous a aimés au point de donner sa vie pour nous, combien plus maintenant que nous lui donnons notre vie, prendra-t-il soin de nous? Si quand nous étions des ennemis, Dieu nous a aimés d'un tel amour, et si Jésus nous a aimés de cet amour et qu'il a conduit à se donner pour nous, quand nous étions des impies, car c'est bien ce que nous sommes par nature, alors maintenant, comment ne recevrions-nous pas aussi toute chose avec lui? Croyez-le. Allez les mains vides pour saisir cette vie éternelle, pour la saisir pleinement et pour en vivre. Et vous ne serez pas déçus. Et alors, en voyant la joie de ses disciples, Jésus lui-même était heureux de voir ce qui s'était passé en eux et heureux de les entendre parler de cette expérience qu'il venait de faire de la puissance du nom de Jésus. Car c'était au nom de Jésus qu'ils étaient même arrivés à chasser des démons. Les démons même, les puissances adverses, les forces surnaturelles ne peuvent rien contre nous. Elles nous sont soumises. Verset 20. Jésus leur dit tout de suite, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Oh, mes amis, encore ce matin, cette parole m'était donnée dans cette marche. Tu commenceras ainsi. Tu leur diras cela. Réjouissez-vous. Non pas de penser que le Seigneur vous donne de la puissance pour triompher de vos ennemis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Est-ce qu'ils y sont écrits? Et depuis quand? Dès avant la fondation du monde. Alors qu'est-ce qui pourrait vous arriver? Personne n'était prédestiné à la perdition. Les noms sont écrits dès avant la fondation du monde dans son livre. Mais ce qui peut arriver, et si un homme est perdu, qu'est-ce qui sera arrivé? Puisque quand on ouvrira les livres au grand jugement, il est dit que ceux qui ne furent pas trouvés écrits dans le livre de vie furent jetés dans l'étang de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Qu'est-ce qui peut arriver à un homme qui a pourtant son nom écrit dans le livre de vie? Il peut arriver une chose, c'est que ce nom soit effacé. Et il y a eu un homme de Dieu, qui s'appelait Moïse, et qui un jour pour sauver Israël qui avait péché, pour sauver tout un peuple qui s'était détourné de Dieu, quand Dieu lui a dit, écoute Moïse, moi j'en ai assez de ce peuple, je m'en vais le détruire, l'exterminer, et je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai, je te ferai devenir grand. Moïse s'est jeté sur ses genoux, il s'est prosterné devant le Dieu trois fois saint, puis il a dit, non Seigneur, sauve ce peuple, mais moi, efface-moi de ton livre. Et qu'est-ce que Dieu lui a répondu? Exode, au chapitre 32e, quand Moïse dit au verset 32e de l'Exode, « Pardonne maintenant leurs péchés, sinon je t'en prie, efface-moi de ton livre. Moi, je ne désire pas être sauvé. Si les autres ne sont pas sauvés, je ne désire pas être sauvé. » Ça, c'est le vrai salut. Ça, c'est vraiment les sentiments qui sont dans le cœur de quelqu'un qui est régénéré, qui est vraiment sauvé. J'aimerais mieux être damné et que vous soyez sauvés. Voilà ce que dit Moïse. Et l'apôtre Paul, dont nous avons lu l'épître aux Galates, il a dit la même chose. Pour ces Juifs qui l'ont fait tant souffrir, il dit, j'ai souhaité d'être anathème, d'être retranché, d'être maudit, pour que eux soient bénis. Voilà l'amour, quand il est réellement dans un cœur. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Alors, qu'est-ce que Dieu répond à Moïse? L'Éternel, verset 33, dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. » Et qu'est-ce que c'est ce péché qui pourrait faire que nous soyons effacés du livre de vie? Qu'est-ce que c'est que ce péché? C'est le refus de la grâce. Comprenez-le bien. C'est ça. C'est d'avoir refusé la grâce. Alors, Dieu parle une fois, deux fois. Il a de la patience avec vous, mais on ne se moque pas de Dieu. Et si vous continuez à vous endurcir vous-même, il arrive un moment où peut-être c'est trop tard. Ah, mes bien-aimés, ne pensez pas simplement que le brigand sur la croix au dernier moment, il a pu se tourner vers le Seigneur. Oui, tout brigand qu'il était, son cœur n'était pas si endurci, mais il n'avait pas eu l'occasion de rencontrer Jésus. Vous avez eu l'occasion de rencontrer Jésus. Vous avez eu l'occasion d'entendre sa parole. Et alors, si l'ayant entendu, vous ne voulez pas comprendre, vous fermez vos oreilles, vous fermez vos yeux, vous fermez votre cœur, un endurcissement fait, et peut-être qu'un jour, il est trop tard. C'est le seul danger que vous courez. Mais si vous l'avez reçu, eh bien vous savez que le Seigneur n'effacera pas votre nom du livre de la vie. Voilà ce que nous trouvons dans une merveilleuse méditation que nous pourrions faire sur le livre de la vie à travers toutes les Écritures. Je n'effacerai pas ton nom du livre de la vie. Vous trouvez cela dans l'Apocalypse. Mais personne n'a été prédestiné à la damnation. Alors réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Et réjouissez-vous du fait que quand on a reçu Jésus, on ne peut pas perdre ce merveilleux salut auquel nous étions prédestinés dès avant la fondation du monde. Et le Saint-Esprit qui nous rend réellement libres, comme on l'a vu ce matin, vient rendre témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais nous le sommes non pas parce que nous sommes nés dans une famille chrétienne, de parents chrétiens, catholiques, protestants, orthodoxes, ou que sais-je encore, mais nous sommes enfants de Dieu parce que nous sommes nés de Dieu. Parce que nous sommes nés de nouveau, parce que nous sommes nés d'en haut. Et notre citoyenneté, la vraie, ce n'est pas la Suisse ou la France, pour moi, qui suis d'origine évidemment française, mais de la révocation de l'édit de Nantes, c'est pourquoi mes ancêtres, persécutés parce qu'ils lisaient la Bible, se sont enfuis en Suisse, et que je suis né en Suisse. Mais comme je dis quelquefois, mes racines sont françaises. Alors, peu importe votre nationalité, peu importe la couleur que nous avons, ce qui compte, c'est que nous soyons nés de nouveau. Voilà ce que nous disait l'apôtre dans les Galates, que nous soyons une nouvelle création. Pas une création simplement de chair et de sang, mais né d'eau et d'esprit. Né de l'action de la parole de Dieu, qui est symbolisée par l'eau, on croit la parole, et cette eau nous lave et nous purifie dans la marche. Et la puissance du Saint-Esprit nous anime. C'est le Saint-Esprit qui nous fait marcher, c'est le Saint-Esprit nous fait vivre. Et alors, après cette introduction, nous arrivons à la fameuse question que, en ce même moment, voyez verset 21. Alors, si je commence ma lecture au verset 21, en ce même moment, vous voyez qu'il manque quelque chose. Quel moment? Bien, justement, le moment dont nous venons de parler, où Jésus s'est réjoui, où Jésus a dit, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Alors, évidemment, la foule l'entend, puis un docteur de la loi, un homme religieux, un homme qui enseigne les Écritures à son peuple, un théologien juif, s'approche de... Oh, pardon. Verset 25, oui. C'est un peu plus... au verset 21, oui. Mais maintenant, je passe au verset 25. Et voici qu'un docteur, donc dans ce moment-là, un docteur de la loi se leva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Parce que Jésus a parlé des noms qui sont écrits dans les cieux, et voilà que maintenant, cet homme dit, ben, « Au fond, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Lui le sait, théoriquement, puisqu'il est docteur de la loi. Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Jésus ne répond pas tout de suite. C'est comme au jeune homme riche. Le jeune homme riche qui lui a demandé un jour sur le chemin, que faut-il que j'aie fait pour hériter de la vie éternelle? D'abord, le Seigneur lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Un seul est bon, Dieu. Et puis, il lui dit, ben, tu connais les commandements, puisque tu veux faire quelque chose. Tu connais les commandements. Lesquels? Dit le jeune homme riche. Et Jésus lui en cite quelques-uns. Et le jeune homme s'écrie, mais j'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. Alors, qu'est-ce qui me manque encore? Et Jésus lui dit, une chose te manque. Va, vends tout ce que tu as et viens, suis-moi. Va, vends tout ce que tu as, donne aux pauvres, et viens, suis-moi. Ce n'est pas parce qu'il aura vendu tout ce qu'il a qu'il sera sauvé. Ce n'est pas parce qu'il aura donné son argent aux pauvres qu'il sera sauvé, mais c'est parce qu'il va le suivre. Et au fond, l'obstacle pour le jeune homme riche, c'est ses biens, c'est ses richesses. Qu'est-ce qui vous empêche d'accepter le Seigneur? Vos richesses? Vos richesses? Les richesses des derniers jours? Vous savez ce qu'il est dit d'elle dans l'épître de Jacques, ce sont des richesses pourries. Et on en fera de plus en plus l'expérience que nos richesses sont pourries. Alors voici aussi à ce docteur de la loi, Jésus répond par une autre question. Qu'est-il écrit dans la loi? Comment lis-tu? Et alors, le docteur de la loi répond, ben voilà, il résume cette loi. Il sait très bien qu'il y a 613 commandements, comme je vous l'ai signalé. 248 commandements affirmatifs, puis 365 défenses. Mais on a toujours cherché chez les Juifs à résumer les commandements. Il y avait les 10 paroles du Sinaï, mais ces 10 paroles, les théologiens juifs essayaient aussi de les résumer en 2 commandements. Et c'est ce que vous avez ici. Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. » Alors, demandez-vous, est-ce que j'aime le Seigneur de tout mon cœur ? De toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Est-ce que c'est ainsi que nous l'aimons par nature ? Et puis, c'est très facile de dire qu'on aime Dieu. Personne ne le voit. Et c'est pourquoi il est ajouté ce deuxième commandement qui est au fond la pratique visible du premier, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est dans l'amour pour le prochain qu'est manifesté notre amour pour Dieu. Si je dis que j'aime Dieu, c'est théorique ça. Mais si je manifeste mon amour pour le prochain, eh bien on peut voir dans cet amour une manifestation de mon amour pour Dieu. Alors, en entendant la réponse du théologien juif, Jésus lui répond, verset 28, « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Vous voyez quel pédagogue est Jésus. Il ne décourage pas. Il souligne tout de suite que c'est une bonne réponse, en effet. C'est cela qu'il faudrait. Mais est-ce qu'on le fait ? Alors, évidemment, le théologien a bien senti où le bal blessait. Et alors, il dit, mais qui est mon prochain ? Il pose une nouvelle question à Jésus. Verset 29. Mais lui voulut se justifier et dit à Jésus, et qui est mon prochain ? Et c'est là qu'il est donné à Jésus de répondre par une parabole. Il y a 4 paraboles dans l'évangile de Luc qui sont données par Jésus comme réponse à des questions qui lui sont faites. Et celle-ci en est une. Cette parabole du bon samaritain que vous connaissez tous, que même les athées connaissent, puisque vous savez qu'elle est à la base de quoi ? Qu'est-ce qui a été fondé au fond ? Qu'est-ce qui a une œuvre extraordinaire, une œuvre internationale. La Croix-Rouge. Vous connaissez la Croix-Rouge ? Qu'est-ce qui l'a fondée ? C'est un certain Suisse, Henri Dunant, né à Genève, et mort en 1910 à Aiden, dans le canton d'Appenzell, un de nos petits cantons suisses. Et au siècle dernier, pendant qu'il était en Italie, il y avait une terrible guerre dans le nord de l'Italie, sous le règne de Napoléon III. Et Henri Dunant s'est trouvé dans une petite ville où on amenait les survivants, les blessés de cette fameuse bataille de Solferino, un petit village d'Italie où il y avait eu un véritable massacre. Combien de morts ? 40 000. C'est quand même quelque chose, hein ? Aligner 40 000 personnes mortes. Un carnage effroyable. Et les survivants de ce carnage, il y avait 40 000 morts, mais il y avait encore tous les blessés, on les amenait dans une petite ville d'Italie où se trouvait Dunant. Et quand il avait vu cela, il était absolument bouleversé. Il a dit, c'est pas possible. Et il a mis cette idée en avant qu'il faudrait qu'il y ait une aide pour tous ces gens qui sont blessés, atrophiés, mourants dans ces batailles. Et il a lutté, évidemment, ce n'est pas facile d'imposer quelque chose. Et enfin, quand même, en 1864, la Croix-Rouge a été fondée. Mais on a laissé, après du an, complètement dans la misère. Et c'est seulement en 1901 qu'on a reconnu, au fond, qu'il avait fait quelque chose de bien et que le prix Nobel de la paix lui a été donné. Et il est mort en 1910. Mais qu'est-ce qui avait inspiré Henri Dunant? C'est l'histoire du bon samaritain. Et dans tous les pays maintenant, on parle des samaritains, ceux qui secourent les blessés. Vous voyez, c'est semence de Jésus. Même les gens qui ne croient pas au Seigneur savent cette histoire, connaissent cette origine quand même, s'ils ont quelques connaissances intellectuelles, eh bien, ils connaissent ces choses. L'influence de Jésus dans le monde, sortie d'une parabole qui a saisi Henri Dunant devant la misère de l'humanité. Jésus est tout près de cette ville de Jéricho et il nous parle d'un certain chemin que certains d'entre vous ont fait entre Jérusalem, qui est une ville qui se trouve à 800 mètres d'altitude, et Jéricho, qui est auprès de la mer Morte, dans la plaine, et qui se trouve à 400 mètres au-dessous du niveau de la mer. Ça fait quelle dénivellation ? 1200 mètres. Alors, donc c'est une route qui descend. Et dans cette route, en tout cas sur 25 kilomètres, eh bien, c'était une route qui était infestée de brigands qui se cachaient dans des cavernes et qui attaquaient les voyageurs. Alors, vous voyez, Jésus prend quelque chose, une parabole, il va faire une comparaison pour donner un enseignement. Mais tout le monde pouvait savoir de quoi il était question. Un homme, probablement un juif, descendait de la ville sainte, Jérusalem, et il allait à Jéricho. Jéricho qui était une ville sacerdotale, c'est-à-dire où habitaient les sacrificateurs. Certains sacrificateurs, quand ils avaient fait leur service à Jérusalem, ils allaient habiter chez eux dans cette ville sacerdotale de Jéricho, comme Zacharie était d'une autre ville sacerdotale, Ein Karem, près de Jérusalem. Et quand il avait fini son service, il retournait chez lui, comme vous le savez, auprès de sa femme Élisabeth. Alors Jésus raconte quelque chose que tous peuvent comprendre. C'est à la mesure de leur intelligence. Et il leur dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba au milieu des brigands. Ça n'étonne personne, parce qu'on savait que c'était un chemin dangereux. Et ces brigands, eh bien, ils le dépouillèrent et le rouèrent de coups. Ça signifie quoi? Pourquoi est-ce qu'ils ont dû le rouer de coups? Parce que probablement cet homme a voulu se défendre. Il ne s'est pas laissé dépouiller, il n'a pas levé les bras comme ça, prenez ma bourse. Si on lui a dit la bourse ou la vie. Et non, il avait des muscles peut-être. Alors, on l'a roué de coups, on ne l'a pas tué, parce que peut-être c'est trop compliqué après, si on nous arrête. Alors, on l'a laissé à demi-mort sur le chemin, mais complètement dépouillé. Et alors il est dit que, par hasard, par inadvertance, enfin, un sacrificateur descendait par ce chemin. Parce que ce chemin, justement, il était fréquenté, puisque c'était le seul et qui conduisait
à la ville de Jéricho. Et ce sacrificateur, il était donc, il avait sa fonction dans le temple, donc il connaissait très bien la loi. Il descend, et qu'est-ce qu'il voit? Il descendait par le même chemin, il vit cet homme. Remarquez bien ce mot, hein. Il vit cet homme. Et puis, il passa outre. Pourquoi? À vous de chercher, à vous de savoir ce que vous auriez fait vous aussi. Et ce que vous faites, peut-être, quand vous voyez quelqu'un qui est mal pris, on a toutes sortes d'excuses. Hein. On ne va pas se mêler de cette affaire, parce qu'on ne sait pas où ça va nous entraîner. Et puis peut-être qu'on est pressé, et que sa femme a mis le rôti sur le feu, et qu'il serait brûlé s'il arrive en retard. Toutes sortes d'excuses, plus ou moins stupides. Mais enfin, on a toutes sortes de raisons. Ou bien on a un rendez-vous, et on a dans sa poche un petit billet qui dit « présence indispensable ». Je ne peux pas m'arrêter. Ce n'était pas dans mon programme. Alors, on a toutes sortes d'excuses dans notre conscience pour passer outre. Puis on espère peut-être que l'autre qui viendra après moi fera ce que moi je ne peux pas faire. Mais voilà, il y en a un autre qui passe après. Et lui aussi, il a dit, il le vit. C'est un lévite. Les lévites, ils aidaient les sacrificateurs au temple. Ils chantaient, ils conduisaient le chant. Ils étaient un peu comme ce qu'on appelle les diacres dans l'église, tandis que le lévite, le sacrificateur était le prêtre. Il arrive à ce même endroit, il le vit et il passa outre. Lui aussi a des excuses probablement. Mais voilà, verset 33, un samaritain. Alors il faut bien comprendre qui étaient ces samaritains. Les autres passages de l'Écriture du Nouveau Testament nous montrent que ces Samaritains, c'était donc les gens qui habitaient la Samarie, c'était des gens à moitié juifs et à moitié païens, que les juifs ne fréquentaient pas. C'était vraiment des étrangers. Leur religion, c'était pas la bonne religion, c'était une religion mélangée. Ils croyaient en un Dieu unique, mais ils avaient ajouté toute espèce de coutumes païennes. On a toute leur histoire dans un livre des rois et un livre des chroniques. Mais les juifs n'avaient pas de relation avec les samaritains. Ils ne les saluaient pas et ils les détestaient. Et alors ce samaritain, justement, détesté par le peuple juif. Lui aussi, il voyageait. Et c'était donc un étranger. Il arriva près de lui. Et lui aussi, il l'a vu. Et qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu compassion. Vous rendez-vous compte de l'exemple que Jésus prend. Et il dit, il ose dire ça à un docteur juif. Ces gens qu'on exècre, ces gens qu'on ne veut pas fréquenter, ces gens dont on dit toutes sortes de mal. Bien, lui, il le voit. Puis la compassion. Et qu'est-ce qu'il va faire? Ce samaritain n'a peut-être pas la connaissance exacte des 613 commandements, ni même le résumé des commandements dans les deux grands commandements. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais il a l'amour du prochain. Parce que ça ne sert à rien que vous connaissiez le commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que ça peut faire? Si vous avez seulement la connaissance du texte de ce commandement, c'est tout à fait inutile. Ce qu'il vous faut, c'est que vous ayez l'amour en acte. La foi, elle est agissante par l'amour. Si vous avez la connaissance de la vérité, mais que cette vérité, vous ne la vivez pas, eh bien, ça ne vous sert à rien, cette connaissance. Au contraire, cette connaissance va vous condamner. Nous aurons l'occasion de répondre aux questions cet après-midi au sujet du salut des gens qui sont venus avant Jésus-Christ. Comment eux ont-ils été sauvés? Avaient-ils besoin d'être sauvés? On répondra à ces questions cet après-midi. Mais ici, voilà un homme qui n'a pas été aux écoles des rabbis, aux écoles des maîtres juifs, et qui, lui, sait ce que c'est que l'amour du prochain. Il voit un homme dans la peine, à demi-mort. Eh bien, lui aussi, il a ses obligations. Eh bien, il s'arrête. Il le voit. C'est la première chose. Et vous pouvez trouver là les six actes qui sont bien définis. Six actes qui manifestent l'amour du prochain. On voit la personne dans la peine. On la voit. On ne ferme pas les yeux. On ne détourne pas la tête. Quand on a l'amour du prochain, on voit son prochain. Et puis, vous chercherez vous-même, je ne veux pas trop vous aider, pour que vous sondiez vous-même les Écritures. Et quand il a eu dans son cœur de la compassion, qu'est-ce qu'il a fait? Les autres se sont éloignés. Lui, il s'est approché. Est-ce que vous osez vous approcher de votre prochain? Le pauvre homme, gisant à demi-mort, ne pouvait pas faire un pas vers lui. On attend toujours que les autres viennent vers nous. Moi, je m'occuperai bien de mon prochain, mais qu'il vienne me demander un service. Je lui rendrai bien un service s'il vient me le demander. C'est ça votre amour pour le prochain? Moi, je suis toujours prêt à faire quelque chose pour le prochain. Qu'il vienne. Qu'il vienne. C'est ça? Non. Il s'approcha. Pendant que vous en avez l'occasion, l'occasion, on l'a vu hier, hein? Pendant que vous avez l'occasion, faites du bien à tous, principalement à ceux de la maison de la foi, mais faites du bien à tous, faites du bien même à l'inconnu qui est là gisant. Il s'approcha, il l'a vu, maintenant il s'est approché. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il bande ses plaies, il n'a pas peur de le toucher. Oh, les microbes! Moi, je ne veux pas m'infecter. Rendez-vous compte. Il a peut-être le sida. Moi, je n'aurais pas y arriver. Je n'ai pas touché cet homme. Hein. Qu'est-ce qu'on sait ce qu'il a fait? Hein? Qu'est-ce qu'il a dans le sang? Parce qu'il y a du sang. On n'aime pas le sang. Hein. On n'aime pas voir le sang. Alors, on se détourne du sang. Et pourtant, un autre sang a été répandu pour nous. Le précieux sang du Seigneur Jésus. Mais nous, on n'aime pas le sang. Alors, il banda ses plaies. Et avant de les bander, eh bien, il apporte vraiment les soins nécessaires. Il a un peu de vin. Oh, mais mon bon vin, moi, que j'avais pris pour moi, pour mon pique-nique. Hein? Ah, ouais, je peux quand même... Ça me fait mal au cœur de voir ce vin couler sur ses plaies. Mais ça enlève le pus. Ça nettoie. Puis ma bonne huile pour ma salade. Ma bonne huile d'olive. Pour adoucir. Et voilà qu'il donne tout ce qu'il a. Il s'oublie complètement. Hein. Quand on aime son prochain, on s'oublie soi-même. C'est vrai ou c'est faux? Méditez vous-même, c'est ça méditer, c'est sonder les Écritures, c'est chercher à savourer qu'est-ce qu'il y a là-dedans, casser le noyau, hein, et puis arriver à l'amande. Parce que sans ça, ça paraît dur, ça ne dit pas grand-chose. Mais dès que vous entrez, comment lis-tu? Comment lisez-vous les paraboles? Comment les comprenez-vous? Ce sera le sujet de la semaine prochaine, Dieu voulant, si nous pouvons encore nous réunir. Eh bien, le Seigneur nous parle par les actes du Samaritain. Il banda ses plaies en y versant l'huile et le vin, puis qu'est-ce qu'il fait? Encore un autre acte de l'amour. Il était bien sur sa monture, c'était ma monture, hein. Je suis bien sur mon poutane, sur ma monture. Il a dû descendre d'abord de sa monture. Puis maintenant, qu'est-ce qu'il va mettre sur sa monture? Il va mettre l'autre. Vous comprenez ce que ça veut dire? Vous voyez déjà qui est au fond le Samaritain? Qui est-ce qui est descendu de sa monture et nous a mis sur la sienne? C'est Jésus. Vous comprenez, c'est criant. Ça se voit à travers le texte. Ce Samaritain, cet étranger, il venait de quel pays? Il venait du ciel. Et il est venu sur la terre, le divin étranger. Puis nous a vu dans notre misère. Qu'est-ce que nous étions morts dans nos fautes et dans nos péchés. Puis vous voulez accomplir la loi, vous voulez faire quelque chose quand vous êtes à demi mort. C'est bien l'état dans lequel se trouve l'humanité. L'homme ne peut pas se sauver par lui-même. Il ne peut pas se sauver par ses propres efforts. Ce n'est pas le Samaritain qui a dit, écoute, essaye de venir à moi, essaye de venir sur ma monture. Il l'a pris et il l'a placé lui-même sur sa monture. Voilà ce que Jésus a fait. Laisse-toi sauver, en quelque sorte. Laissez-vous sauver. Laissez-vous saisir par le Seigneur. Et puis, maintenant qu'il est sur sa monture, il dit à sa monture, ben va où tu veux. Non, il conduit sa monture. Et il prend soin que ce blessé soit le plus confortable possible sur sa monture. Et lui marche à ses côtés. Il le conduisit où? À l'hôtellerie. Il pense, je ne peux pas le laisser sur la route, il lui faut des soins maintenant. Il faut qu'il puisse se rétablir. Alors, il trouve une hôtellerie, mais ça va lui faire un détour. Pensez à aller à l'hôtellerie. Eh bien, il va à l'hôtellerie. Puis, un homme qui a tout perdu, auquel on a tout volé, qu'est-ce qu'il va payer? Hein? Qu'est-ce qu'il va payer? Ça ne se discute pas. C'est lui qui va payer. Et alors, il arrive chez l'hôtelier, et puis, là, il prit soin de lui. Il ne l'a pas abandonné comme ça. Il veut que, s'il revient à lui, qu'il voit quand même qu'il est là, présent. Il reste présent avec lui, il prend soin de lui. Mais voilà le lendemain, donc il a perdu un jour, mais un jour pour le Seigneur, ça a de la valeur. Et qu'est-ce qui arrive? Eh bien, le lendemain, il doit partir, il a quand même des obligations. Alors, le lendemain, il sortit deux deniers. Un denier, c'est le salaire d'un ouvrier pour une journée, c'était ce qu'on payait. Un denier, c'était le salaire d'un ouvrier pour la journée. Alors, il lui donne deux deniers, il les donne à l'hôtelier, et lui dit, prends soin de lui. Et puis, vous voyez, et ce que tu dépenseras en plus, donc, je veux qu'il ne manque de rien. C'est magnifique, hein, l'amour pour le prochain. Je veux qu'il ne manque de rien, je veux pas que ce soit raté. Alors, il donne les deux deniers à l'hôtelier, et il lui dit, prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le payerai moi-même à mon retour. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il reviendra. Et qu'il reverra celui qu'il a sauvé. Vous comprenez qui est le Samaritain là? Qui c'est qui reviendra? Jésus. Puis en attendant son retour, alors qu'il a dû nous quitter, il nous a confié entre les mains de qui? Qui est l'hôtelier? Si on veut sonder les Écritures. Qu'est-ce qu'il a envoyé comme pour consoler les siens pendant son absence? Le Saint-Esprit. Et cette hôtellerie, eh bien ça devrait être vraiment l'Église, où le Saint-Esprit veut se manifester, veut agir, la communauté où on reçoit les soins dont on a besoin. Et on peut dire aussi, si vous voulez chercher une interprétation allégorique, que ce seraient les deux deniers que le Samaritain a donné, que Jésus nous a donné pendant le temps de son absence. Qu'est-ce que nous avons pour voir à nos besoins spirituels? Deux deniers. Le premier, c'est la parole. Et puis l'autre denier, qu'est-ce qu'on peut faire? Prier. La parole et la prière. Voilà ce que nous avons pour le temps de son absence. Nous avons la parole de Dieu qui peut nous nourrir et nous avons la prière. Et puis, à son retour, eh bien, il va encore pouvoir à tout, puisqu'il va transformer le corps de notre abaissement en la conformité du corps de sa gloire. Nous ne manquerons de rien jusqu'à ce qu'il vienne. Alors, c'est la fin de l'histoire, verset 36. « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ?» Vous voyez la manière de répondre de Jésus. Il n'a pas dit, quand on lui a demandé « Qui est ton prochain ?»« Ben, le prochain, c'est ceci, c'est cela. » Non. Il fait réfléchir l'homme. Et cet homme qui est un docteur de la loi et qui déteste les Samaritains, qu'est-ce qu'il devra dire? Que celui qui a été vraiment le prochain de l'homme tombé entre les mains du brigand, les brigands, c'est qui? C'est le Samaritain. C'est le Samaritain, c'est l'étranger, c'est pas le Juif. Et ce Samaritain, c'était bien Jésus. Le vrai prochain. Si vous voulez savoir ce qu'est l'amour du prochain, il n'y a qu'une vie qui peut vous le montrer. C'est quelle vie? Celle de Jésus. Et si vous voulez avoir dans votre cœur l'amour pour le prochain, il vous faut Jésus en vous. Parce que le prochain, c'est Jésus. Et lui-même, dans le chapitre 8 de Jean, il a été appelé par les Juifs un Samaritain. On va lire le verset, hein, pour que vous soyez bien certain que je ne me laisse pas égarer par mon imagination. Il n'est pas question d'imaginer quelque chose, mais c'est bien ce que les Juifs disent à Jésus au verset 48 du chapitre 8. Quand Jésus, au verset 47, déjà dit, verset 46, « Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Évidemment, si vous n'êtes pas de Dieu, tout cela, ça ne vous intéresse pas. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs lui répondirent, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain ?» Il le traitait de Samaritain, lui, le divin étranger, celui qui venait du ciel. Et puis qu'est-ce qu'il disait même? Qu'il avait un démon. Jésus lui dit, Jésus leur dit, je n'ai pas de démon, mais j'honore mon Père. Et vous me déshonorez. Vous me déshonorez. Alors que moi, j'honore mon Père. Alors, il veut amener le docteur de la loi à dire que celui qui a été le prochain du malheureux tombé entre les brigands, c'est le Samaritain. Mais vous voyez, il ne prononcera pas cette parole. Il n'osera pas dire c'est le Samaritain. Il ne nommera pas. Hein. Il répond, verset 37, qui a été le prochain, il dit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers. Mais il n'a pas osé dire c'est le Samaritain. Il dit, c'est celui qui a usé de miséricorde envers lui. Mais qui est-ce qui avait usé de miséricorde envers l'homme tombé entre les mains des brigands et qui était probablement un Juif? C'était le Samaritain. Hein? Il y a des choses qu'on ne veut pas reconnaître. Ben, il nous faut nous laisser corriger par la parole, c'est ça. Il nous faut admettre certaines choses. Nous sommes sectaires, nous sommes butés, nous sommes étroits. alors que l'amour du Seigneur est si large, si vaste, autant que les océans, plus profonds que les mers. Alors Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Fais de même que qui ? Ce Samaritain. Prends exemple, peut-être même sur un que tu dis, un païen, et qui vit davantage l'amour du prochain que nous autres. Quelle leçon ! Alors je laisse maintenant la parole de Dieu sur vos cœurs. Nous venons de la lire. Nous avons essayé de la méditer ensemble, de sonder les Écritures, comme disait Jésus. Et nous voyons que cette parole, des siècles après qu'elle a été prononcée, a eu tout d'un coup une puissance sur un homme comme Henri Dunant, et qui s'est dit, mais qu'est-ce que nous faisons pour tous ceux qui sont dans la peine? Et ça est devenu la Croix-Rouge internationale, et les musulmans même ont suivi, mais en mettant, au lieu de la croix, le croissant, hein, le croissant rouge, mais c'est toujours la même institution internationale. Mais nous nous réjouissons de ce retour de notre Seigneur, et qui même dans ses paraboles a voulu toujours remettre devant nos cœurs qu'il reviendra. Alors comment lisez-vous l'Écriture ? Demandez au Seigneur qu'il fasse tomber les écailles de vos yeux, et que quand vous lisez la Bible, que ce soit une page du Nouveau Testament ou une page de l'Ancien, vous puissiez y découvrir des merveilles. Seigneur, ouvre mes yeux, dit le psalmiste, pour que je voie les merveilles de ta loi. Et ne pensez pas, oh bien, ça, c'est un serviteur de Dieu qui peut nous dire ces choses. Il veut vous les dire à vous, quand vous lisez l'Écriture. Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et tu les as révélées à des petits enfants. Ayez un cœur d'enfant et mettez-vous à l'écoute du Seigneur. Fermez peut-être votre radio, votre télévision pour ne plus voir toutes ces choses, pour que le Seigneur vous donne une vision de lui-même, de son ciel de gloire. Et maintenant, eh bien, nous allons avoir ce culte d'adoration. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et quelle est cette liberté que nous allons avoir? Ce n'est pas une liberté charnelle. Il n'est pas question maintenant que nous allons jaser, dire n'importe quoi. Mais si nous avons quelque chose à dire à notre Seigneur, un mot de reconnaissance, un mot de louange, ou si nous avons un texte biblique qui nous est rappelé par le Saint-Esprit et que nous voudrions partager, eh bien, lisez-le à haute et intelligible voix. Et si vous avez une action de grâce pour l'œuvre que le Seigneur a faite, eh bien, souvenez-vous que nous voudrions pouvoir dire « Amen » à votre prière, à leur parler à haute et intelligible voix, parce que nous sommes quand même un peu dispersés. Ne baissez pas votre tête comme ça pour parler dans votre barbe, même si vous n'en avez pas, mais parlez d'une façon claire pour qu'on puisse dire « oui, c'est vrai » et que nous soyons de cœur avec vous ce matin. Et qu'est-ce que nous avons sur cette table? Eh bien, nous avons ce qui nous rappelle la croix. Et pour moi, quand l'apôtre Paul dit aux Galates, « Je vous ai dépeint Jésus-Christ crucifié au milieu de vous », je pense qu'il faisait surtout allusion au repas du Seigneur à la Sainte Cène. Vous savez que la nuit où Jésus fut livré, pour donner un souvenir, un mémorial de tout ce qu'il était, de tout ce qu'il a été à ses disciples. Ils étaient en train de prendre un repas, il a pris du pain comme nous allons le faire tout à l'heure, il l'a rompu, il a rendu grâce à Dieu et il a prononcé ces paroles, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Alors maintenant, j'aimerais que vous puissiez oublier toute autre chose et que vous vous concentriez sur Jésus. Que chacun de vous, que chacune de vous, vous ayez plus vos pensées attachées sur la personne de Jésus. Et que ce que vous verrez de Jésus, ce qui vous sera montré de lui, ce que vous entendrez de lui, vous puissiez l'exprimer. Faites ceci en mémoire de moi. Puis il prend la coupe, il verse le vin qui était sur la table, le vin du repas, c'est pas un vin spécial, c'est le vin du repas, et il la distribue à ses disciples et il leur dit, ceci est mon sang qui est versé pour la rémission des péchés de plusieurs. Il leur annonce sa mort. Cette mort que les disciples ne voulaient pas, ils ne voulaient pas l'envisager, ils ne voulaient pas l'entendre. Et pourtant, c'était cette mort qui allait les sauver, parce que c'est par sa mort que nos péchés allaient être ôtés, c'est par sa mort que nous aurions la possibilité d'être morts avec lui, d'être crucifiés avec lui, pour que nous en ayons fini avec nos impulsions de la chair. C'est par cette mort que nous serions morts à la loi, lui-même ayant satisfait toutes les exigences de la loi, de sorte que cette mort du Christ, que nous rappelons ce matin, nous rappelle que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce qui nous a été faite et qui a tellement coûté à Jésus que nous savons que nous sommes sauvés au prix de sa vie. La vie de Jésus, voilà ce qui me rachète. Voilà ce qui me sauve. C'est un prix infini, mais aux yeux de Dieu, il est tellement satisfait de la vie de Jésus qu'il oublie mes péchés. Ils sont pardonnés, ils sont expiés, ils ne reviendront plus en sa présence. C'est tellement merveilleux, nos péchés pardonnés. Alors, nous rappelons que nous avons un pardon total, quant à notre chair que nous avons encore en nous et qui ne s'améliore pas, il n'y a qu'une place pour la chair, c'est la croix, c'est d'être crucifié avec Christ. Mais comme nous ne pouvons pas nous crucifier nous-mêmes, nous savons que c'est la puissance du Saint-Esprit qui nous maintient dans la mort. C'est le Saint-Esprit qui combat contre la chair, ce combat que nous ne pouvons pas mener, lui le mène si nous marchons par l'Esprit et si nous sommes alors conduits aussi par le Saint-Esprit. Le monde nous est crucifié, nous le sommes au monde. Nous sommes délivrés de la crainte de la mort par la mort de Jésus. Parce que Jésus n'est pas resté dans la mort, il est ressuscité. Et nous avons une vie de résurrection. Il est où maintenant? À la droite de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prie pour nous. Il intercède pour nous. Est-ce que vous imaginez? Quelqu'un prie pour vous. Qui? Un saint quelconque? Une sainte quelconque? Jésus lui-même. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et tout cela nous rappelle l'unique sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Un sacrifice qui a été fait une fois pour toutes, que nous ne pouvons pas renouveler, mais qui est actualisé chaque fois que nous rompons le pain et que nous buvons à la coupe. Mais alors, c'est le Seigneur qui va nous inviter. Mais si nous ne sommes pas au Seigneur, si nous ne l'avons pas reçu, ne vous approchez pas de la table. Parce qu'alors, vous faites quelque chose de scandaleux, et ne vous dites pas, ben, je m'approcherai pour que ça m'aide à le recevoir. C'est pas en prenant le pain et en buvant à la coupe que vous allez le recevoir. Vous prenez le pain et vous buvez à la coupe parce que vous l'avez reçu, comprenez-vous? Et je ne voudrais pas vous inciter à vous approcher si vous ne l'avez pas reçu. Parce que je sais que si vous faites cela, vous mentez, vous êtes hypocrite. Alors c'est grave. Et je vous aime assez pour vous dire ne le faites pas. Et puis, ne vous dites pas, ben, si je le fais, eh bien, ça va m'aider contre le péché. S'il y a péché, qu'est-ce que vous devez faire? C'est pas communier, c'est confesser vos péchés. Comprenez-vous? C'est pourquoi on ne peut pas faire ça d'une façon légère. S'il y a péché, c'est pas un obstacle, mais il faut que le péché soit confessé. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, nous purifier de toute iniquité. Le sang de Jésus-Christ nous lave et nous purifie de tout péché. Alors ne pensons pas que la Sainte Cène, c'est un moyen de grâce qui va nous aider simplement si nous ne passons pas par la règle du Seigneur. Parce qu'il y a une règle. Et cette règle du Seigneur, il vous prend tel que vous êtes, mais il faut avoir confessé nos péchés. Si nous confessons nos péchés, si nous les abandonnons, parce qu'il est dit, celui qui cache ses transgressions ne prospérera point, mais celui qui les confesse et qui les abandonne obtiendra miséricorde. C'est cela qui est clair. Alors, ce n'est pas nous qui pouvons dire, c'est ceux-ci ou ceux-là qui vont s'approcher. Et c'est pourquoi nous vous le disons, si vraiment le Seigneur est entré dans votre cœur, eh bien oui. Si vous avez confessé vos péchés au Seigneur, si vous lui avez dit maintenant je les abandonne, eh bien oui, c'est lui qui vous invite. Et n'attendez pas de vous dire ben, quand je me sentirai digne, je m'approcherai. Il est digne que vous répondiez à son amour. Mais ne faites pas cela légèrement. Il faut, par-delà les éléments, par-delà le pain et le vin, discerner le corps et le sang du Seigneur. Et discerner le corps du Seigneur, c'est aussi comprendre qu'on ne peut pas communier chacun pour soi, mais qu'on communie avec nos frères, qui sont membres du corps du Christ. C'est pourquoi il ne faut pas simplement qu'il n'y ait rien entre moi et Dieu, mais il ne faut pas qu'il y ait quelque chose entre moi et mes frères. C'est pourquoi la Sainte Cène est un moyen, justement, de réconciliation extraordinaire. Si on veut répondre au désir du cœur du Seigneur, le Seigneur me dit, va, réconcilie-toi d'abord avec ton frère. Et puis, si je n'ai pas encore pardonné à mon frère, le Seigneur, je lui pardonne. Et alors, vous serez bénis. Vous serez bénis. Que le Seigneur lui-même nous ramène à cette simplicité apostolique, et que ce matin, nous ayons une heure de grâce. Vous avez aussi les cantiques sur vos sièges. Il est possible que vous ne les connaissiez pas tous, mais s'il y en a un que vous aimeriez chanter, qui exprime les sentiments de votre cœur, eh bien, nous pourrons le faire. Alors, pour introduire ce moment de louange, d'adoration et de prière où c'est le Saint-Esprit qui sera libre en vous, bien, nous allons peut-être nous lever pour chanter le cantique 8 et puis après nous laisserons la liberté.